pas une gueule de porte-bonnet.
Con, ça ose tout. Il m'a fait qu'on le connaît.
Je connais le kung fu. Prouve-le-moi.
Bienvenue dans Thème Ciné. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue pour une nouvelle saison de Thème Ciné. Je suis évidemment très heureux de reprendre pour une nouvelle année et de recommencer à vous parler de cinéma avec mes camarades de toujours, qui sont toujours à mes côtés, bien sûr. Mais je vous dis bonjour Melvin.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Lucas.
Bonjour à tous.
Et donc cette année, pour cette fameuse rentrée, nous avons pris... un thème qui est, on va pas dire facile, mais bon, qui nous arrange parce que c'est quand même assez classique à travailler. Nous allons vous parler de super-héros. Et bon, évidemment, vous les connaissez tous, les Batman, les Superman, les Spider-Man et autres Mimimati. Ils nous ont bercés, évidemment, durant toute notre enfance, notre jeunesse, et ils nous bercent encore. Ils bercent encore même des adultes de 40 ans, ce qui est normal parce que c'est trop bien, les super-héros. Et donc, les gars, je vous repose du coup à nouveau, après 2 mois d'absence, 3 mois même, cette fameuse question pour vous, les super-héros, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je commence, ok. on va dire que c'est un sujet qui est quand même d'actualité, on va dire depuis... on est dans l'âge d'or, on va dire, des films de super-héros depuis à peu près 20 ans, donc on va considérer que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Mais voilà, évidemment, on va avoir souvent un environnement donc, qui va être soit la Terre ou quelque chose qui nous est familier pour qu'on puisse identifier l'environnement donc, dans le film. Et il va y avoir soit un individu, un ou plusieurs individus qui va être chargé de sauver soit la Terre ou le monde dans lequel il est. Voilà, c'est un individu ou des individus qui ont des capacités qui vont pouvoir permettre de sauver le monde qui va être en danger. Pendant soit le film, soit durant une saga, et enfin, je pense que à peu près tout le monde sait ce que c'est, donc j'ai pas besoin d'aller forcément plus loin.
Alors moi, je suis pas d'accord.
Ça y est,
l'année commence, je râle. Pour moi, non, ça peut être à très grande échelle, le film, je sais pas où, quand même, à très petite échelle. C'est pas, ça va pas être sauver le monde, ça peut être sauver une personne, et même si on prend par exemple Spider-Man, il sauve pas grand monde dans ses tout débuts, quoi. Ouais, il laisse même tuer son oncle, pour dire. Mais après, pareil sur l'âge d'or, oui c'est l'âge d'or, mais ça, je trouve que ça commence à patiner un peu. Ces dernières années, il y a une certaine lassitude, mais c'est vrai que ces années 2000-2010, c'était vraiment la grosse période super-héros depuis de nombreuses années.
Ça, on pourra entrer dans les débats sur ce que l'on pense de l'actualité des super-héros tout à l'heure, mais pour l'instant, les super-héros, on peut le dire, ça ne date genre pas du tout d'hier. C'est ça c'est d'un point de vue personnel, mais on peut dire que les premiers super-héros de l'histoire, c'est juste les héros des grandes sagas de l'Antiquité, même avant. Parce que je sais pas pour vous, mais Héraclès, c'est quand même pas rien. C'est un gars, il vit des aventures de fou, il sauve des gens, et bon, il est pas très sympa mais non plus, mais c'est quelqu'un qui a une super force, comme beaucoup de super-héros. Et voilà, donc... on peut dire que les super-héros, ça a quasiment toujours existé, notamment dans les grands mythes.
Oui, mais la mythologie a souvent été reprise en plus dans l'univers des super-héros. Celui de prendre Thor, ça reste la mythologie nordique, ou tous les dieux grecs qui sont quasiment partout.
C'est ça. Wonder Woman, hein, si tu nous regardes.
Non, mais oui, en plus, ça a même été intégré, on va dire que les divinités grecques ont même été intégrées dans les derniers films. Je pense à la Justice League de Zack Snyder, on voit... dans les scènes d'introduction, on voit même Zeus qui se bat au milieu des Green Lantern et autres super-héros. Donc c'est vrai que c'est des personnages qui peuvent être vraiment associés à des divinités. Sauf, il y en a qui le sont vraiment à proprement parler, comme Thor, même Loki, bon, voilà, qui est un différent type de personnage. Mais on va dire que c'est vraiment des persos qui peuvent être associés. Ils ont une telle puissance que ça peut vraiment être associé à des divinités. Donc c'est vrai que ça peut remonter depuis pas mal d'années.
Ça, ou alors le dernier exemple en date, le plus récent, c'est Moon Knight. Son patron, c'est littéralement le dieu de la mort égyptien. Donc
il y a même Zeus dans Thor 4.
Oui, aussi.
Encore plus récent.
Même Black Adam.
C'est vrai. C'est toujours pas vu.
Mais on peut parler évidemment. Nous, on parle surtout de nos super-héros contemporains. Donc évidemment, on pense à Superman qui date de 1938, Batman qui ne l'a suivi que d'un an, en 1939. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu très longtemps pour faire des séries adaptées de ces super-héros-là. La première série Batman, elle date de 1943. Bon, c'était juste passé au cinéma, c'était en noir et blanc et pas très crédible. Mais bon, c'était Batman, fallait bien commencer quelque part.
Il y a même, juste avant, il y a eu Captain Marvel. Alors, il faut savoir que Captain Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage de chez Marvel, à l'heure actuelle.
D'où le nom.
De base, c'était un personnage de chez DC Comics qui s'appelait donc Captain Marvel et qui a été renommé par la suite Shazam.
Ah.
Donc ça a été, alors honnêtement je saurais pas vous retranscrire exactement l'histoire, mais je sais qu'il y a eu une histoire de procès ou de droit d'auteur avec Marvel, et au final Captain Marvel a fini chez Marvel alors que de base c'était la propriété de DC Comics. Et donc Captain Marvel de chez DC, donc dans la première série et arrive en 1941 juste avant Batman, est devenu Shazam.
Bah, de toute façon, l'histoire entre les différents labels de comics, c'est la mafia. Hein. Ils se piquent des trucs, ils se font des procès pour plagiat, pour autoplagiat. Bref, c'est un bordel. Et concernant Superman, je voulais juste vous recommander la toute première série qui date de 1941 en Technicolor. Attention. Mais dit comme ça, ça prête à sourire. Mais en vrai, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil parce que l'animation est absolument... Elle est folle, l'animation est absolument folle, c'est super fluide, ça n'a rien à voir avec l'époque. Ça s'appelle Superman et le savon fou, si ça vous intéresse.
Mais oui,
vas-y.
Pour parler de l'histoire de super-héros, c'est vrai que c'est eu, c'est quoi, années 70-80, il y en a eu beaucoup, un peu kitsch maintenant, mais voilà, et ça s'est perdu quand même dans les années 90, avant de revenir du coup début de 2000 avec X-Men et Spider-Man.
Qu'est-ce que tu nous vois dans les séries de super-héros des années 70? Je vois à la limite le premier Superman avec Christopher Reeves qui date de 79, mais l'âge des super-héros c'est plus fin des années 80 et 90, la première partie.
Oui, oui, ce que je veux dire c'est que ça s'est perdu durant les années 90, il y a eu la lassitude avant de revenir exploser le box-office début 2000.
Il y a eu quelques gros flops, même au début des années 90, avec la première adaptation du Punisher qui a été un échec assez violent, même si on a vu très dernièrement que quand on adapte avec du cœur et avec de l'écriture le personnage, ça peut donner des très bonnes choses. Et après, à cette époque-là, il y a eu que le Batman de Tim Burton et les suites qui en ont découlé plus ou moins bonnes, mais à cette période-là, il n'y avait vraiment que ça, quoi.
Oui, c'est ça, il y a eu une grosse période de creux avec les Batman et Robin, Batman Forever, qui ont certes été des succès au box-office, mais au niveau des critiques et de la qualité même, bon, on va dire qu'on a fait mieux, quoi. C'est
même cata.
C'est ça.
Mais bon, ça en est limite maintenant. Bon, c'est considéré comme des gros nanars, donc ça a limite un petit charme de les regarder de temps en temps. Mais...
C'est assez drôle.
Ouais.
Et pour moi, tu avais commencé à en parler, il y a le gros renouvellement des super-héros, ça a été les X-Men de Bryan Singer, qui date des années 2000, le premier il sort en 2000, que je défendrai jusqu'à ma mort, hein, je suis désolé, j'aime beaucoup trop ces films.
Après un petit coup de vieux quand même, mais ça a le mérite vraiment
de... Mais c'est le charme des années 2000, c'est le charme des années 2000.
Il y a deux, trois scènes avec Wolverine où vraiment ça a pris un gros coup de vieux. Mais bon, ça a vraiment eu le mérite d'être un énorme tremplin pour ce qui est arrivé par la suite, quoi.
Les Spider-Man de Sam Raimi, qui, ça c'est mon enfance, je sais pas pour vous.
Mmh. Ouais.
Et l'autre aussi qui est beaucoup plus tard par rapport à cela, c'est le premier Iron Man qui est juste fondateur du MCU au cinéma.
Mmh. Ouais, on a même eu Daredevil, Ghost Rider un peu entre temps qui ont...
Ouais,
qui, bah, bon. Ça a eu le mérite de faire visuer le perso. Après, bon, c'est sûr que le Daredevil de Ben Affleck est pas top top. On a même eu Elektra, mais là, je me semble que c'est un des seuls films de super-héroïne.
Catwoman, ça te dit quelque chose?
Oui, mais c'est pas terrible. et donc voilà, c'est vrai qu'on a eu le premier Iron Man en 2008, qui, moi, m'a... Ça reste mon film préféré du MCU à l'heure actuelle. Donc,
On a vu Hulk juste avant.
Ouais.
Non. Avec Edward Norton.
Non, c'est après.
Il est juste après? Ok.
Ouais. Il est après, par contre on a eu celui-là.
Celui avec Eric Bana.
Ouais, celui-là est arrivé vraiment avant.
Et j'ai l'impression qu'en fait ils ont testé d'abord le public avec des persos qui pas ouf et pas trop connus, et ensuite ils ont envoyé la sauce avec Iron Man.
Ah non, parce que c'est l'inverse. Ouais. Hulk est très connu, par contre Iron Man est absolument inconnu à l'époque, en termes de comics. Ouais.
Ah ouais.
Au niveau des comics, Iron Man était vraiment un personnage limite de second plan chez Marvel. On mettait vraiment beaucoup plus en avant des persos comme Spider-Man, ce genre de choses. Après, même Captain America, il me semble. Hulk était vraiment ultra populaire. Et au final, le premier Iron Man, ça a été vraiment un gros gros coup de poker parce que on sort notamment Robert Downey Jr. Qui sort complètement de désintox et qui a fait, on en a parlé, il me semble, de
Kiss Kiss Bang Bang.
Ouais, qui a fait juste avant. Et c'est un peu un énorme coup de poker, on met Jon Favreau derrière la caméra et on regarde si ça marche. Il n'y a pas énormément de budget, un peu quand même. Et en fait, on se rend compte que c'est un énorme carton et c'est de là que ça démarre, quoi.
Du coup, ça, tout ça, ça nous mène du coup au MCU et aux actualités Marvel. Alors, je suis moyennement légitime pour vraiment parler de ça parce que le dernier Marvel que je suis allé voir au cinéma, c'était Black Panther 1.
Ah oui, ça remonte.
Et bon, disons que je vais pas dire j'aime pas, je veux dire que j'ai pas été le public.
Bah voilà, tu vas voir le 2 dans une semaine.
Non.
Ouais, non, c'est vrai que Black Panther, moi perso, je l'ai découvert tard parce que vraiment j'étais pas du tout motivé à le regarder. Et mais c'est vrai qu'au final, alors on en a beaucoup fait, ça a même été présenté aux Oscars, je crois que ça avait été sélectionné.
On a remporté quelques-uns, ouais. Costumes et décors, des choses comme ça.
Mais je trouve que ça, bon après évidemment ça a été surtout
wow, présenté. Waouh, ce fond vert est tellement joli.
Ça a été surtout sélectionné, bon parce que ça faisait une grosse représentation de la communauté afro-américaine et du coup ça a vraiment...
Parce que Disney.
On va dire que ouais, ça a été...
C'est ça, on vous parlera peut-être de la corruption aux Oscars, mais là c'est pas le sujet.
Et au final, ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, j'ai trouvé perso. Enfin, j'ai pas trouvé ça incroyable, quoi.
Non, je suis pas fan non plus de Black Panther.
Après, y a pas que celui-là, mais même ça faisait plusieurs années... Celle-là, ça fait plusieurs années qu'il y a une sorte de lassitude. Enfin, je trouve que le scénario des Marvel, ils se ressemblent tous. C'est...
Alors non, tu peux avoir des She-Hulk qui annulent son scénario. Mais je n'en dirai pas plus. Il faut regarder.
Non mais là, mec,
c'est éclaté.
Mec, tu cherches, ça vient à peine de sortir. Moi, je te parle de ce qui date déjà, qui a un petit cru, tu vois, déjà. C'est... Non mais vraiment, c'est... Le héros découvre son pouvoir, ça marche bien, le méchant débarque, il s'affronte dans un premier temps, le héros se pose des questions, il se fait défoncer par le méchant, il revient après avoir appris un truc, il défonce le méchant, c'est pareil.
Mais après, c'est le souci, pas que chez Marvel, c'est un peu partout. Tu prends chez DC, ça va être le même principe.
Ouais, sauf que DC, ils ont eu moins de succès, du coup il y a moins de films, du coup tu les apprécies plus.
C'est vrai.
Mais DC, va y avoir un... À mon avis, on va être très très... Enfin, moi, en tant que fan de super-héros, je vais être hyper intéressé par ce qui va suivre. Parce que bon, vous avez vu Black Adam ou pas?
Non.
Pas encore. Bon, on va dire que c'est le film qui est censé relancer le DCU. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le DCU, c'est comme le MCU, c'est le DC, donc DC de chez DC Comics Extended Universe. Donc c'est tous les films qui se passent dans le même univers avec tous les mêmes super-héros, c'est exactement comme chez Marvel. Et on va dire que le dernier Black Adam, ça me surprendrait pas que DC prenne le dessus sur Marvel. Alors ça fait déjà des années qu'on dit ça, mais avec le dernier Black Adam qui apparemment va vraiment relancer l'univers de DC, sachant que tous ceux qui l'ont massacré jusque-là, donc tous les dirigeants, on va dire, de la Warner Bros. Sont partis là. Black Adam, ça a été le dernier film qui a été fait sous l'ancienne direction. Donc je pense que autant chez Marvel, moi je suis de moins en moins intéressé, alors que vraiment j'étais un des plus gros fans des sagas Marvel jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à Endgame. Je pense que ça va vite s'essouffler, que ça va être très chaud pour Marvel, excepté les deux dernières Avengers qui ont intérêt d'être très très bons, parce que vu ce qui arrive chez DC, à mon avis ça va frapper fort quand même.
Ils peuvent se sauver un peu avec Ant-Man à la limite.
Je te trouve très optimiste hein, par rapport à DC Comics.
Non, si, vu les dernières actus, ils peuvent prendre le dessus. Il y a 2-3 choses qu'on ne dira pas pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça peut revenir.
Enfin, après 10 ans d'attente.
Non, oui, et puis, franchement, on va dire que la nouvelle direction a l'air de prendre le bon chemin. Alors, autant
cas, ça... Un meilleur chemin.
Ouais, ça caresse un peu les fans dans le sens du poil, mais on va dire que ça a l'air de reprendre les bons rails. Comparé à Marvel, qui déjà avec les séries dérivées là, qui commencent un peu à partir en n'importe quoi, ça commence un peu à tourner les personnages au ridicule, mais bon, on va dire que je pense à l'heure actuelle que d'ici les 2-3 prochaines années, va prendre des meilleurs rails que Marvel.
Mais surtout, quelque chose, c'est que DC Comics n'a pas encore exploité à 100% tous ces personnages fétiches. Tu vois, ils ont encore beaucoup de matière. Alors que Marvel, bah, ils ont fait une série d'anthologie de dingue avec bah, la première partie du MCU jusqu'à l'affrontement contre Thanos. Mais là, il te sort des super-héros qui sont sortis du placard. Tu n'en as jamais entendu parler, ne serait-ce qu'en personnage secondaire. Qui avait entendu, vraie question, c'est pas un truc de mépris, qui avait entendu parler de Shang-Chi avant qu'il sorte au cinéma?
Non, lui, il est un peu sort de nulle part, lui.
Les Éternels?
Déjà un peu plus.
Moi, les 10 anneaux, ouais, avec le mandarin et tout. Alors, le personnage en particulier, non, mais la légende des 10 anneaux, tout ça, j'en avais déjà entendu parler avant. Hors Iron Man 3, je parle.
Oui, les anneaux de pouvoir, moi, je connaissais ça que par Iron Man, mais c'est tout, quoi.
Non, mais ouais, après, c'est vrai que Marvel, en même temps, ça fait quand même depuis, on va dire, à peu près plus de 10-15 ans qui domine vraiment les super-héros. Il y a vraiment que sur la scène mondiale qui sont capables de proposer du divertissement comme ils le font. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça va commencer à fatiguer. Après, des super-héros, ça va peut-être s'essouffler, mais il y a encore des gros méchants qui restent derrière qui vont être introduits par la suite. Donc, bon, on verra ce que ça donne, quoi.
Tant que ça fait des sous, il continue.
Puis ça rapporte. Hein.
Et puis reboot des séries aussi avec Daredevil. Donc ça va continuer à faire des petits sous-sous dans la machine Disney. Donc,
C'est ça. Alors je ne les ai pas vus, mais à ce qui paraît, les séries Netflix, surtout de Daredevil et The Punisher, ils sont pas mal. Parce qu'après Iron Fist, c'est pas.
Non, c'est pas top. Même Luke Cage, c'est vraiment pas terrible. Mais moi j'ai adoré Daredevil et j'ai vraiment adoré The Punisher.
Faudrait que je les voie.
Si jamais ça intéresse quelqu'un, c'est des. On va dire des séries pas longues, ça fait une deux saisons, un coup de 10-12 épisodes par saison, donc vraiment n'hésitez pas quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a vraiment introduit aux super-héros? C'est quoi, genre, qu'est-ce qui vous a introduit, le film de votre enfance, petite enfance, ou même votre découverte?
Alors si on parle de film d'enfance, ça doit être Spider-Man 3, que j'ai vu au cinéma, étrangement Batman et Robin, et Batman Forever, que j'ai dû voir beaucoup de fois en allant en vacances, et ce qui m'a permis de découvrir les autres Batman, en fait.
Mais du coup, tu les appréciais quand t'étais petit? Ou pas?
Plus que maintenant. Bah, je trouve pas ça dingue non plus, mais... Mm-hmm. Mais ça m'a permis de découvrir les autres Batman, et plus vieux, c'est vraiment les X-Men, depuis X-Men First Class, où là, j'ai fait tous les X-Men, et Kick-Ass, la même année. En fait, tout en 2010, entre 2008 et 2012, c'est là que ça a explosé, pour moi.
Moi, j'avais le Batman de 89 de Burton en VHS, je m'en souviens. J'ai l'impression que c'était il y a 30 ans quand je parle de VHS, c'est abusé.
Mais les VHS, ça existe encore début des années 2000. Hein,
oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Le Royaume 2, on l'a pensé en VHS à la crèche. Hein.
Les supports ont tellement évolué. Donc le premier Batman de Tim Burton et j'aurais dit Spider-Man 2, 3 aussi à peu près comme Maline. Je pense qu'on a dû découvrir ça à la même période. On va dire... Ouais, le premier que j'ai été voir au ciné, Spider-Man 3.
Alors moi, si on parle de films purement, moi j'ai vraiment découvert ça avec le Iron Man 1, le Batman de Tim Burton, le premier que j'ai vu à la télévision un soir de Noël, c'était trop cool, et le second que j'avais pris au DVD en DVD sans savoir ce que c'était vraiment que ce film, donc c'était pure découverte. Ma vraie introduction au super-héros, ça a été la série américano-québécoise Iron Man de 1966, que je vous conseille vraiment beaucoup pour juste les traductions québécoises, tout simplement. Et moi, je rêve d'un reboot, c'est vraiment, ça y arrivera jamais, mais je rêve d'un reboot de Iron Man où il affronte l'homme taupe, le chevalier noir, l'homme de glace. C'est que des trucs comme ça, et donc je vous le conseille vraiment pour rigoler parce que c'est vraiment les personnages qui expliquent absolument toute l'histoire et c'est très drôle. Et j'en profite pour vous conseiller un gars sur YouTube qui ne fait plus de vidéos mais dont les vidéos sont quand même très drôles, qui s'appelle Marvel Comic et qui reprend justement l'esthétique de ces vieux dessins animés là pour les redoubler. Ça me semble pas mal. Vous avez quelque chose à rajouter?
Mais à part les références, non.
Écoute, moi je vous propose de passer à la pause musicale. Et du coup, je vous laisse en compagnie de Chad Kroeger et de son titre Hero. I am so high, I can hear heaven. I am so high, I can hear heaven.
why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles. Watch as we all fly away. And they're watching us. They're watching us as we all fly away. And they're watching us. They're watching us.
Bon, eh ben c'était fort sympa. Nous allons donc passer à la seconde partie de l'émission, où nous allons vous présenter chacun trois films qui nous ont marqué ou qui nous ont plu, qui sont en rapport avec le thème des super-héros. Alors, comme d'habitude, moi, je vais commencer parce que je suis le plus vieux, et j'ai les films les plus vieux. Et je suis content parce que c'est tout simplement le premier dessin animé que l'on va traiter. Et en plus de ça, c'est le premier ou deuxième direct ou DVD dont on va parler. Ce qui est deux choses très spéciales à la fois. C'est en même temps ce qui est bien mais pas top. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et du coup, je vais vous parler de Batman contre le fantôme masqué, sorti en 1993. Réalisé par Bruce Timm, qui juste le créateur et producteur de Batman, la série animée, qui a participé à la création du dessin animé Superman et Justice League qui passaient en même temps, qui sont des séries absolument excellentes, foncez les regarder. Mmh. C'est lui qui a dessiné notamment les storyboards, et il va réaliser certains épisodes donc de Batman, la série animée. Il est accompagné de Eric Randomski, qui est juste co-créateur et co-producteur de Batman la série animée aussi, il n'a pas un CV exceptionnel. Et au scénario, on retrouve Alan Burnett, qui lui aussi a fait du scénario de Batman la série animée, plus toutes ses suites, ainsi que Superman et Justice League. C'est généralement le même monde, hein. Donc
ouais, c'est un peu
ils
comme
ont,
un spin-off.
Ils ont souvent le même CV, mais on retrouve aussi évidemment Paul Dini, qui est producteur, auteur et scénariste, donc de tout ce qu'on vient de parler, hein, Batman la série animée, Superman, mais qui aussi fait ça dans les Teeny Toons. Voilà, je trouve ça rien à voir, mais je trouve ça mignon. Et on lui doit aussi évidemment le scénario des deux premiers jeux vidéo Batman Arkham City et Asylum.
Petit jeu indé.
C'est ça, ils sont pas très connus et ils sont géniaux, foncez les faire si vous pouvez. Et quant aux acteurs, là c'était compliqué à faire parce que on a des acteurs cool des deux côtés. Du coup, je vais vous parler des doublages américains et français, en commençant par les américains. Aux US, on va retrouver Kevin Conroy, qui double Bruce Wayne dans tous les dessins animés DC de 93 à 2019, et qui doublera toujours Bruce Wayne dans tous les spin-offs de tous les dessins animés DC jusqu'en 2021. C'est la voix de Bruce Wayne aux États-Unis, tout simplement. On retrouve aussi Dana Delany, qui va jouer le rôle de Andrea dans le film, et qui est connue pour être la doubleuse de Lois Lane. Voilà, toujours en rapport, hein, c'est le même monde. Mais évidemment, on retrouve l'excellent, le puissant Mark Hamill dans le doubleur du Joker, qui est juste... Luke Skywalker dans Star Wars, hein, donc c'est pas très connu non plus.
Un petit rôle indé.
Pareil, on fait toujours la même blague. Hein, bon, c'est qui est un rôle qui lui colle à la peau, mais bon, c'est comme ça. Hein, il pourra jamais s'en débarrasser complètement. Donc lui, il va doubler le Joker sur toutes les séries Batman et donc The Animated Series, hein, je précise. Et c'est lui aussi qui le double dans les jeux vidéo Batman Arkham, ce qui est pas mal. Mais en français aussi, on a du beau monde avec Richard Darbois en Bruce Wayne et Batman, qui, bon, ses doublures sont pas très connues, hein. Il a doublé Harrison Ford, Danny Glover, Dan Aykroyd, Jeff Goldblum, Sylvester Stallone, le génie dans Aladdin, Buzz l'éclair.
Des rôles indés.
Voilà, il est...
ça va devenir un running gag. Ça
c'est ça, mais il fait partie de vous, hein, Richard Darbois, vous êtes obligé de le connaître. On retrouve ensuite Piraté, qui lui aussi a doublé Christopher Lloyd, et le Joker, qui, alors, en autre rôle, j'ai essayé de trouver, parce qu'il est surtout connu pour cela, le pasteur Galswell dans Les Noces Funèbres, si ça vous dit quelque chose. Et pour les weebs d'animation japonaise comme moi, il double Nakamura dans le dessin animé Ghost in the Shell. Voilà. Et enfin, on retrouve Régine Tesso, qui fait Andrea, qui, elle, est surtout connue pour faire énormément de voix féminines dans les Simpsons, notamment Crapabel, mais qui, en fait, a doublé dans des films super connus, mais que en second rôle ou en tierce rôle. Elle a doublé dans Terminator 2, JFK, Forrest Gump, Mars Attack, mais c'est que les gens qui sont interviewés dans la télé pendant que le héros principal parle, voilà, c'est que ça. Mais bon, c'est à noter quand même. Et j'ai choisi celui-là parce que, en fait, ayant énormément de vues de classiques, tout simplement de films de super-héros, j'avais rien d'original à faire vraiment découvrir. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais DC, ils sont forts dans les dessins animés. Du coup, faudrait que je parle d'un dessin animé DC. Et c'est tombé sur celui-là parce que c'est un des premiers que j'ai vu et qu'il est trop cool et que ça change des immortels, mais absolument fantastiques Batman. De Tim Burton et les Batman des années 2010, hein, tout simplement. Du coup, pour résumer. Batman évidemment fait la justice à Gotham City, mais il va tomber sur un mystérieux fantôme masqué qui va assassiner les différents parrains de la mafia, et au même moment un de ses ex réapparaît en ville, et il y a énormément de mystères autour de tout ça, surtout que le Joker va finir par s'en mêler. Ça me semble un bon résumé, je sais pas pour vous.
Parfait. C'est ce qui se passe, quoi.
Voilà. Et donc, voilà, la question, c'est pour vous, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai l'impression de regarder un mix entre Scooby-Doo et le dernier jeu Arkham. Mais non, c'était très bien. Il faut savoir que j'ai jamais vu la série animée. Jamais, jamais, jamais. Même pas un épisode.
Si vous n'avez pas compris, hein, je vous la conseille énormément. Surtout si vous aimez Batman.
Mais après, j'ai reconnu comme très vite que d'où ça venait. Et l'animation est impec, le doublage est impec. Et l'histoire, c'est bien, j'ai quelques réserves, genre c'est un peu prévisible quand même. On se demande qui est le fantôme masqué, en même temps il n'y a qu'un seul autre personnage, donc bon. Voilà. Mais non, dans l'ensemble c'est très bien, le côté Batman est respecté en fait avec les comics et quelques références de partout, le Joker est parfait, enfin ça suit la série en fait. Voilà.
Que dire de plus?
Tu approuves?
Oui, vraiment, on est raccord là-dessus. Qu'est-ce que je mettais parce que j'ai fait mes devoirs comme d'habitude. Il y a des dessins d'animation quand même super intéressants pour l'époque. Je pense, vu que vous l'avez vu, vous allez voir. Je pense à la scène des jumelles quand Batman est sous la pluie, il est sur une cathédrale, il observe l'immeuble en face. Je trouve la scène super bien faite.
Ouais.
Vraiment, c'est l'esthétique du dessin animé est quand même assez cool.
T'as vu l'animation des gouttes de pluie, genre sérieux, c'est trop bien.
Non, oui, vraiment, c'est des dessins animés assez connus pour ceux qui s'intéressent aux super-héros, et on voit vite pourquoi, en fait, parce que vraiment, ça diffère pas mal de ce qu'on fait maintenant, parce que ça a été fait pour raconter une histoire, et non pour brasser du pognon. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être quasiment que bien, quoi. Donc ça a été fait par des amoureux du comics, ou des dessins animés, ou des dessins en général. Donc ça a été fait vraiment pour raconter des histoires et pas pour exploiter les licences jusqu'à la moelle comme on peut le faire maintenant dans certains films, pas dans tous, faut pas être aigri non plus. Mais on va dire que ouais, ça a pas été fait pour brasser du pognon, donc à partir de ce moment-là, ça peut être que bien, quoi.
Bah alors, je suis moyennement d'accord avec toi parce que certes ça a été fait par des gens talentueux, mais fallait que ça rapporte derrière, hein. C'est Batman la série animée, donc ils vont pas faire un film juste pour faire plaisir. Ils savent que ça va rapporter derrière. Et c'est très étrange d'ailleurs qu'il ne soit pas sorti au cinéma et qu'il soit passé directement en VHS. Bah, je sais pas du coup s'il s'est rentré dans ses frais. Je pense que oui, hein, parce que c'était quand même assez gros à l'époque, Batman. Mais voilà, J'en profite aussi pour conseiller sa suite entre guillemets, qu'est-ce qui est Batman Sub-Zero, avec juste un méchant que j'adore qui est Mr. Freeze, et qui est bien aussi parce que c'est pas non plus le méchant. Ça, là aussi, c'est beaucoup plus subtil qu'on peut penser.
Oui, parce que là, effectivement, le côté. Comment dire, c'est fait pour amoureux des comics, on sent qu'il n'y a pas 1000 refs à la seconde pour dire tiens regarde là il y a le sphinx qui est caché, c'est parce qu'on est intelligent et tout. Non, c'est très bien fait là-dessus par rapport à d'autres films qui arriveront après du même genre quoi, c'est plutôt sympa.
Ouais, pour revenir sur ce qu'on disait Tom, alors ça a été fait évidemment pour rapporter de l'argent, mais par les gens qui l'ont mis en chantier je pense, mais pas pour les, pas on va dire pour les travailleurs de l'ombre comme les scénaristes ou ceux qui s'occupent de l'animation. Qui eux vraiment, enfin, c'est des gens, même les doubleurs, ils ont travaillé, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le même perso, donc forcément, c'est quand on est, ils aiment les persos. C'est... Alors évidemment, les maisons d'édition, ceux qui le mettent en chantier, bon, évidemment, il faut que ça rapporte, parce que, à un moment donné, ceux qui dirigent, ils en ont un peu rien à faire que on soit amoureux de son sujet, tout ça, ça rapporte pas, ça rapporte pas. Mais les gens qui ont travaillé de fond en comble sur le projet, oui, ça a pas été fait. Bon, ça reste quand même le cas encore maintenant, hein, ceux qui travaillent sur les films de super-héros, qui sont sur les plateaux, etc., et pas ceux qui dirigent, ça reste des gens, excepté les acteurs de maintenant, parce qu'on a quand même pas mal d'acteurs en tête d'affiche qui arrivent dans les films de super-héros, qui étaient dans un cinéma totalement différent avant, et qui s'intègrent un peu dans l'univers des super-héros en prenant le chèque et au revoir. Mais on va dire qu'à ce temps-là, je pense que l'argent n'était pas la principale motivation pour ceux qui bossaient dessus.
Ça se défend.
Après, pour revenir au film, du coup, ben en fait, c'est en lien avec la série animée, donc tous les points positifs de la série animée, on les retrouve dans Batman contre le fantôme masqué. Donc, il y a la musique, il y a l'animation. Alors là où je rejoins Melvin, c'est que, bon, on sait pas trop qui c'est le fantôme masqué, mais en fait, oui, comme il a dit, il y a deux persos, quoi.
Ça, il y a un personnage nouveau qui est mis en avant, bon.
Et il y a une scène, bon, je vais pas spoiler ni rien, mais bon, il y a...
Bah, si on est un peu là pour ça, on peut prévenir, quoi.
Il y a une scène où le Batman, enfin Bruce Wayne, re-rencontre le personnage et le personnage lui met une énorme prise de karaté, de jiu-jitsu, pardon.
De jiu-jitsu,
qui vient de nulle part. Et sort comme excuse. Ça m'a rappelé d'ailleurs le.
Attends, finis ta phrase.
Elle sort comme excuse. Oui, je pratique un peu de mon côté aussi. Du coup, ça m'a vachement rappelé le Spider-Man de 2002 où on a Peter Parker qui arrive à l'université et il y a Norman Osborn qui lui dit oui, je suis un peu scientifique moi aussi à mes heures perdues et une heure après on voit que c'est le bouffon vert. Enfin, du coup, ça m'a pas mal rappelé ça. Ça fait un petit parallèle. Ça a été sympa. Mais oui. Bon, après, on a encore du Joker, mais celui de la série animée est génial, donc il n'y a pas trop à... On va dire que ça reste quand même très positif, quoi.
Mais heureusement qu'il y a le Joker. Sinon, je pense que ça serait très long. Parce que ça tourne quand même en rond sur le scénario.
Si ça tournait qu'autour de la mafia, on s'ennuiera un petit peu. Ok. Alors ensuite...
C'est à moi. Ensuite, c'est à moi.
On coupera.
Donc, moi, je vais vous parler pour de V pour Vendetta, pardon. Donc, V pour Vendetta. Je vais vous faire le résumé avant quand même de faire le casting. Donc, on est dans une Angleterre fasciste dans les années 80, je crois, au niveau de la temporalité.
C'est fin des années 90.
Voilà, c'est ça. Ok. Donc, où on a un justicier qui apparaît qui porte le nom de V. Donc, qui est obsédé par une culture qui est censurée par le régime en place. Et donc, on est face à un personnage qui est très cruel et très intelligent et qui va s'attaquer à la dictature présente en Angleterre et qui va tenter de la renverser avec l'aide des citoyens ou pas. Vous verrez. Donc, au niveau du casting, c'est avec Hugo Weaving qui joue le rôle de V. Alors qu'il joue qui est le double, surtout en grande partie, mais... donc Hugo Weaving qui a un petit CV d'acteur indépendant qui a joué dans Matrix, dans le MCU aussi avec Captain America, le premier c'est tout, et dans Le Seigneur des Anneaux aussi, qui joue le rôle de je sais plus, mais...
D'un elfe, voilà. Du chef des elfes.
Ok, bon.
Rien que ça.
On a aussi Natalie Portman qui joue le rôle d'Evie, qui a joué dans Black Swan aussi dans le MCU, dans Léon, voilà, enfin tout le monde connaît Natalie Portman. Et après les acteurs derrière, on a Stephen Fry qui joue le rôle de Gordon. Et après, bon, il y a quand même pas mal de persos. Donc, je vais vous demander, on va commencer par Tom. Donc, Tom, qu'est-ce que tu as pensé de V pour Vendetta? je rajoute, pardon, c'est sorti en 2005, voilà, pour ceux qui se demandent.
Et ben alors, le film en lui-même, je l'ai trouvé plutôt sympa, parce que bah, esthétiquement, il est plutôt cool. J'ai pas trouvé, en fait, exceptionnel, je me suis pas pris une baffe en mode « Waouh, c'est incroyable » ou quoi que ce soit. Mais, voilà, j'ai passé un bon moment dessus. Mais on va venir au petit problème de débat, c'est que bah, j'ai lu le comics. Et du coup, je compare ce qui a été fait du comics avec le film, et je comprends que l'auteur ait pu grincer des dents. Parce que le film, en fait, il est beaucoup plus ambigu et beaucoup, beaucoup moins subtil que le comics. C'est-à-dire qu'il y a, les gentils et il y a les méchants. Dans le comics, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des personnages qui sont rajoutés, il y a des personnages qui sont enlevés, et ceux qui sont pas enlevés, on leur change leur caractère ou ce qu'ils sont. Voilà, c'est pas un gros spoil, c'est un spoil que du début. C'est-à-dire que là, dans Natalie Portman, dans le film, elle a quoi? Elle a 25 ans et c'est une employée à la télé d'État. On est d'accord? Voilà, dans le comics, c'est une gamine de 16 ans qui se prostitue. Voilà, c'est quand même, c'est pas la même ambiance déjà. Et surtout, le comics porte un vrai message politique derrière, qui est tout simplement le message de l'anarchie, alors que le film n'en parle jamais. Il n'y a qu'un moment où il y a juste un pecno qui braque une épicerie en disant « Ouais, vive l'anarchie !» Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dessus. Donc, j'en dirai pas plus, parce que sinon on rentre dans les détails et ça va spoiler très très sec. Voilà, donc le film, voilà, je l'ai trouvé sympa, mais bon, je préfère le comics.
Alors moi, j'ai pas lu le comics, et puis même, ça reste une adaptation, donc voilà. Mais j'ai adoré le film. Genre, je l'ai découvert, je l'ai jamais vu avant, et j'ai passé un super moment devant, parce que je m'attendais pas forcément à ce que j'ai vu, en fait. Parce qu'au final, on est sur un film de super-héros, mais film d'enquête, énormément, et j'aime beaucoup ça. Et on sent la patte des Wachowski, qui sont producteurs, et le réalisateur et leur ancien assistant réalisateur, ça se sent énormément dans la plupart des plans. Le casting est impec et il dure 2 heures, un peu moins de 20 je crois, et on sent pas le temps passer, ça passe super vite. Et non, perso j'ai adoré, et après je recherche jamais les messages dans les films, peut-être que voilà, mais non, le scénario parvient à garder un certain mystère et révéler des éléments tout au long du film qui permettent à rester devant et à attendre la fin avec beaucoup d'impatience. Et les acteurs, top, top, top.
Après, je rajoute, si j'ai l'air de défoncer le film, non, mais le film est très bien en lui-même. Et surtout, le point qu'on peut trouver positif comme négatif, ça dépend selon de la vision de chacun, c'est qu'effectivement, il est tellement différent du comics qu'en fait, c'est deux visions différentes. Et voilà, ça n'a absolument rien à voir, ce qui est bien aussi de changer quelque chose dans une adaptation. Parce que si on prend, par exemple, Sin City, le film est absolument magnifique, mais au niveau des plans et de l'histoire ou quoi que ce soit, c'est un copier-coller du comics. Et du coup, si vous avez lu le comics, vous avez vu le film, et inversement.
C'est alors que là, au sens premier, quoi.
Ça, alors que là, alors que là, vous pouvez lire le comics et il sera extrêmement différent du film. Et du coup, ça sera à vous de vous faire votre idée là-dessus.
Ok, donc moi je vais vous dire surtout pourquoi j'ai choisi le film. Alors déjà parce que on va dire que le genre des super-héros est ultra populaire aujourd'hui. Je pense que beaucoup, et je vais peut-être me faire fâcher là-dessus, mais de gens ont commencé à regarder des films, on va dire assez régulièrement grâce à ce genre-là, surtout ces dernières années. Donc on va dire que ça a aidé en grande partie les salles de cinéma à faire des entrées. On va dire que le genre a vraiment été très populaire, donc j'ai essayé d'aller chercher un film qui sortait de l'ordinaire avec un super-héros assez méconnu, que même moi je connaissais pas avant de découvrir le film alors que j'étais à fond dans la hype des super-héros. Donc voilà, après évidemment ça reste assez décalé de ce qu'on peut voir au cinéma à l'heure actuelle, mais c'est vraiment, ça ferait un brusque retour à la réalité de ce qu'est, alors sachant que V c'est un anti-héros de base, mais ça fait un brusque retour à la réalité, ce que c'est de la fonction première d'un héros. et c'est quand même assez sympa. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai pensé du film vu que je l'ai choisi. J'adore le personnage de V déjà, parce que ça reste de base un rejeton, on va dire, de la société qu'on a utilisé pour arriver à des fins assez, assez macabres. Donc j'adore le perso et j'adore l'intelligence et même la cruauté qu'il a. Et il y a même du coup l'aspect culturel qui est vachement souligné, parce qu'on voit que c'est un personnage qui est vachement cultivé et qui vit vraiment à fond dans sa culture, et je trouve ça assez intéressant. Natalie Portman, alors j'ai lu pas mal de critiques justement avant de conseiller le film. Il y en a qui disent qu'elle est transcendante, que c'est le meilleur rôle de sa carrière. J'irai pas jusque-là, faut quand même pas rigoler.
Moi non plus.
Restons sur terre quand même.
Oui, oui. Faut quand même pas non plus abuser. Elle fait son job, elle est très bien dans le rôle, mais bon, c'est pas non plus transcendant.
Mais elle s'est coupé les cheveux, ok.
Ouais, voilà. La musique, par contre, gros point fort sur la musique. Il y a vraiment un thème qui est particulièrement marquant, mais même la musique en général dans le film.
En plus, c'est une musique classique, du coup, on n'a pas à payer les artistes vu qu'ils sont morts. C'est libre de droit.
Après, bon, l'esthétique. Alors, j'ai noté l'esthétique, mais il me semble qu'il y a 2-3 trucs qui font un peu kitsch. Mais il y a des scènes quand même intéressantes au niveau de l'esthétique. Le déroulé du récit, notamment parce que on tombe pas dans la surenchère de films d'action. En fait, on perd pas de vue le scénario et le déroulé du récit, et ça se passe ni trop lentement ni trop vite. On n'a pas trop le temps de tourner en rond, donc je trouve ça vachement intéressant. Et voilà, après ça fait partie des gros gros films que j'ai découvert ces dernières années qui m'ont foutu quand même une petite claque. Donc voilà pourquoi j'ai conseillé V pour Vendetta, et pourquoi je vous le recommande à vous aussi.
Si je veux juste rajouter quelque chose, c'est aussi dans le film, tout le film est censé se dérouler sur un an, et en fait, je trouve qu'on voit pas littéralement le temps passer, pas parce que le film est trop bien et du coup ça va très vite, je parle pas de ça, c'est vraiment, on sent pas l'année qui passe, j'avais vraiment la sensation que tout se passait en une semaine, quoi. Donc
non mais oui, je suis d'accord. Parce qu'à un moment, ça passe, je me dis, bon, il a dû se passer un mois, et il te fait, il reste 5 jours avant la fin de l'année. Quoi ? Déjà ?
Alors en fait, je pense que ça a été.
Tu vois pas les saisons, tu vois pas, je sais pas, quelqu'un qui fête son anniversaire, enfin, tu vois, quelque chose qui te dit que le temps passe.
C'est vrai. Alors, autant, même, je trouve que l'accent n'a pas été assez mis là-dessus, on voit des gens qui commencent à se joindre au mouvement révolutionnaire. Je trouve que le déroulé, on va dire, l'acheminement de la population à avoir très peur du régime jusqu'à son paroxysme où vraiment les gens se révoltent, quoi. Je trouve que ça, le déroulé, on va dire, est passé beaucoup trop vite, mais ça a été volontaire, je pense, pour pas qu'on s'emmerde devant le film, quoi.
Et bien sûr, mais après, non, c'est pas c'était juste des petites questions pour dire, ah oui, tiens, il y a un an qui est passé, la gamine,
ouais, c'est vrai que ça manque, ça manque un peu de repère, ouais, c'est vrai.
Voilà, c'était tout, mais sinon c'est un film bien correct, vous pouvez aller le voir, c'est de la bonne.
Ouais, voilà.
Et donc toi, Melvin, tu voulais nous parler de quel film ?
Moi, je voulais parler de Super, de, encore une fois, James Gunn, parce que à croire que je l'aime bien.
Mais tu l'aimes bien ?
Je l'aime bien. Donc Super, ça raconte l'histoire d'un loser un peu qui perd sa femme et qui veut la récupérer et qui pour ça va enfiler un costume de super-héros et aller récupérer sa femme. Dans les faits, c'est ça. Et ça tourne un peu mal, on va dire. Et c'est très proche de Kick-Ass. Dans son histoire, ça a été tourné en même temps. C'est sorti un an après, donc 2011, mais c'était tourné en même temps. Et donc c'est réalisé par James Gunn. Au scénario, c'est James Gunn. Comme d'habitude, il fait les deux. C'est au casting, il y a Rainn Wilson. Donc pour ceux qui connaissent The Office, c'est Dwight Schrute. Voilà, c'est sûrement son meilleur rôle. Il y a Elliot Page, à l'époque Helen. Liv Tyler, ou en méchant, Kevin Bacon. Et tout un tas de caméos, les habituels de James Gunn, comme son frère. Ou Rob Zombie dans le rôle de Dieu. Voilà, c'était à citer. Je vais vous laisser commencer sur ce que vous avez pensé de ce film qui m'avait bien marqué moi à l'époque.
Bon, alors j'ai commencé vu que Tom a commencé pour V pour Vendetta. J'ai eu pas mal de mal au début du film parce que je pense que j'étais pas le public ciblé pour ce genre de film, mais ça s'est amélioré au fur et à mesure du film, donc ça c'est un bon point. J'ai trouvé que globalement, c'est un bon divertissement, franchement super, c'était assez cool à regarder. On sent que, j'ai envie de dire que James Gunn, il sort pas des sentiers habituels, mais on sent que c'est un film qui lui tient à cœur, je pense, qu'il voulait vraiment faire.
Alors il a fait son deuxième film, C'est après Horribilis qu'on a déjà traité, c'est son deuxième.
Ok, parce que on voit qu'il est mis du cœur dedans. Il y a quand même des petits détails assez sympas. On voit vraiment que c'est fait avec sérieux. Après, tout au long du déroulé du film, j'ai vraiment bien aimé l'histoire et tout. Même l'acteur principal, alors c'est Rainn Wilson, voilà, je retrouve son nom. J'aime beaucoup, il est assez sympa. Alors le problème, c'est que j'ai l'impression de le voir dans The Office et j'aime pas trop The Office. On va dire que c'est une série sympa, mais bon, je comprends pas trop la hype qu'il y a dessus. D'avoir fait 10 000 milliards de saisons, je comprends pas trop.
Mais regardez-la quand même. Hein.
C'est juste si t'aimes bien l'humour cringe, ça passe, tu vois. Mais si t'es mal à l'aise vis-à-vis du mal à l'aise, ça passe pas.
Ouais, alors, c'est pas un humour auquel je suis pas particulièrement réceptif. Du coup, au départ, je pensais que j'étais pas le public ciblé par ce genre de film. Mais ça reste quand même assez sympa à regarder. Parce que ça nous montre vraiment une autre facette du super-héros. Alors, c'est comme Kick-Ass, sauf que vraiment, c'est tourné vers l'humour. C'est beaucoup plus décalé encore que Kick-Ass. Alors que pourtant, Kick-Ass, c'est quand même assez décalé. J'ai trouvé Elliot Page très cool aussi dans son rôle. Son personnage est assez sympa. De fan de comics un peu dégénéré, c'est assez cool. Ensuite, il y a quand même un peu de sérieux. Il y a une morale du bien et du mal, un peu sérieuse, mais qui est un peu dérivée en humour, qui est assez sympa aussi à souligner. Et après, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est un bon divertissement. Franchement, j'ai bien kiffé. Ça tire pas dans la longueur, donc il y a un début, une fin, au milieu il se passe des trucs, et franchement c'est cool. Pour ceux qui aiment l'humour et les super-héros, ça a le mérite vraiment de se démarquer du genre. Donc moi j'ai bien aimé, franchement c'était un film sympa.
Alors moi aussi j'ai plutôt bien apprécié.
C'est rare, Tom qui apprécie mes films, c'est pas tous les jours.
Non, mais déjà parce que moi aussi j'aime bien James Gunn depuis Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, c'était un autre débat. Mais et surtout j'aimais bien en fait ce côté à quoi ça ressemble quelqu'un qui se prend pour un super-héros, qui est pas musclé, qui est bedonnant, qui a 40 ans et qui...
Multi-dépressif.
Et qui est dépressif et qui sait pas se battre. Et donc ça, ce côté effectivement très... très réaliste dans la cruauté des choses, je l'avais bien aimé. Par contre, je vais juste refaire ton résumé. Alors, c'est un gars qui vit le fait de s'être fait plaquer par sa meuf et qui va entendre des voix de Dieu et se dire que Dieu m'a parlé, il faut que j'aille punir les méchants. Voilà, donc ça, c'est déjà une autre vision, parce que le gars entend vraiment Dieu qui lui dit « Vas-y, brûle ceux qui vendent de la drogue, etc. Wow, calme-toi !»
En rappelant que c'est donc Rob Zombie qui joue Dieu, c'est encore mieux.
Voilà, et encore, enfin, qui joue Dieu, et on voit son doigt, attention, hein, c'est grosse apparition. Effectivement, j'aime bien que j'ai pas vu The Office ni Kick-Ass, je sais, je connaissais ce personnage. Et j'avais l'impression de dire, waouh, c'est un spin-off de The Office, tu vois. Je me disais ça, parce que même il y avait des effets de caméra, des angles qui me faisaient penser un peu à ça. Mais par contre, au fur et à mesure du film, il y a des blagues qui sont clairement, clairement indispensables, des situations clairement indispensables aussi. Voilà, c'est-à-dire que, je vais pas prononcer ces mots, mais quand on dit non, c'est non, quoi. Ce genre de blague, c'est pas mon goût.
Mais ça va plus loin qu'une blague, je pense que c'est dans l'écriture des personnages. Enfin, moi je le vois comme ça, parce que moi, c'est un film qui me met mal à la fin. Quand je l'avais vu, j'étais pas bien. Sur la scène de fin, j'étais resté devant mon écran, tout, j'étais là, wow. Parce que tous ces trucs mis bout à bout, en fait, c'est comédie. Mais là où Kick-Ass va s'assumer en tant que comédie jusqu'au bout, quitte à faire venir un mec avec un jetpack à la fin, ce qui n'a plus aucun sens, là ça s'assume comédie, mais je trouve de moins en moins jusqu'à avoir un ton ultra sérieux, voire trop sérieux à la fin. Et où le personnage va te rendre compte que c'est un loser, ça sera un loser toute sa vie, et puis voilà quoi. C'est ça que j'aime dans ce film, c'est que contrairement à Kick-Ass, il a un côté vraiment réaliste, mais poussé jusqu'au bout, qui est très pessimiste en fait.
C'est ça, c'est en gros, si vous êtes un loser et que vous devenez super-héros, vous resterez un loser quand même, vous inquiétez pas, désolé. Hein.
Et on l'a pas dit, mais c'est très violent aussi.
Ça c'est propre à James Gunn. Hein.
Oui,
ça
oui, mais, alors, là où il casse les moins, bon, à part un micro-ondes, mais les un peu moins.
À la scène du cerveau, ouf.
Ça m'a même surpris à un moment donné. Bon alors évidemment c'est du James Gunn, donc on s'est dit bon qu'il allait pas faire apparaître des licornes et des arcs-en-ciel, mais quand même.
Ah, il aurait pu, mais il les aurait fait exploser à la fin.
Non, mais oui, ça m'a quand même surpris. Donc, c'est un film qui est assez violent, on va dire, sur la grosse seconde partie du film.
C'est bon. Je peux dire ce qui se passe ou pas?
Ah oui, vas-y.
Oui, c'est. Je sais que c'est censé être dramatique, mais il y a un moment. Ce moment m'a fait rire. C'est-à-dire que. À un moment, il s'apprête à assiéger une base de mafieux pour récupérer la femme du mec. Et ils se font shooter par tout le monde. Et il y a le héros principal qui se prend une balle dans le gilet pare-balles et qui respire. Et il se retourne. Et là, et l'autre, elle a plus de tête. Et tu fais, oh merde. c'est dommage.
Mais, ouais, c'est très gratuit en plus.
Ouais, mais vraiment. Ça, là,
ouais, c'est ça.
Ça m'a surpris, ça. Bah, ça se finit comme ça, là.
C'est sérieux? Bien gratuit. Oui, c'est ça. C'est pas en mode, oh mon dieu, je vais mourir. Bah, c'est réaliste.
Il en a rien à faire. Hein. Ouais.
C'est
fait, bon, eh ben, tant pis, j'y vais. Allez hop.
Non, mais c'est réaliste. C'est-à-dire que t'as un gilet pare-balles pour le torse. Ouais, mais tu peux quand même crever si on te tire une balle à la tête.
Ouais, mais même le visuel, quoi. Wow, faut être un peu accroché. Bon, après, c'est pas hard, mais quand même, quoi.
Bah, c'est pas du Marvel, quoi.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc voilà, effectivement, je le recommande aussi, pas chaudement en mode c'est trop bien, mais si vous le croisez un moment à la télé ou que vous le croisez à 2€, franchement, c'est de la bonne pour passer un bon moment en soirée entre potes. Voilà. Bon, vous avez quelque chose à rajouter sur les films qu'on a traités?
Non.
Et bah, dans ce cas, je vous propose à passer au jeu de fin d'émission.
Avec plaisir.
Très bien.
J'enclenche le mode Terminator, c'est parti.
Alors, je me suis découvert quelque chose pendant les vacances, c'est que je suis quelqu'un qui explique extrêmement mal les concepts et qui arrive à mal te vendre quelque chose qui peut être absolument génial. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant, je vais essayer de vous faire deviner des super-héros, mais en les décrivant extrêmement mal. Donc je vais mettre un minuteur de 1 minute parce que sinon on s'en sort pas.
Ouais, sinon on va y passer la nuit.
Il y en a 9 pour éviter l'égalité. Ça sera pas mal.
Si on les trouve tous.
Oui.
Mais oui. Bah alors j'ai pris des faciles, mais vers la fin va falloir un peu chercher. Je compte sur votre culture générale.
Que super-héros, hein. Pas méchant. Etc.
Non, c'est vraiment que super-héros. Okay. J'ai failli mettre des méchants, mais je me suis dit non, le thème c'est les super-héros.
C'est vrai, c'est vrai.
On va mettre des super-héros. Donc, voilà, attention, regarde pas ma fiche, non, parce que tu es...
Je regarde pas, mais il faut bien que je parle dans le micro, quand même.
Oui, voilà. Attends, je vais mettre comme ça, c'est pas mal. Alors, voilà, tout le monde voit bien le chrono. Et c'est parti. Alors, c'est un mec... Oh, putain, ce mec, il est quand même pas mal, ce mec. Hein. Bon, il est un chouïa dépressif sur les bords, mais bon...
Batman.
Oui, bien joué.
Ok.
Voilà, ah, un beau gosse dépressif.
Voilà. Vous avez compris le concept ?
Ouais.
Voilà, c'était facile. Alors, le second. Alors, ce mec, oh ouais, il est pas mal aussi. Hein, c'est un petit jeune bien sympathique, là.
Spider-Man.
Voilà. Ça va ?
Oui, bah oui.
Okay. T'as le temps,
oui.
Le temps de réfléchir. Voilà, c'est facile. Hein. C'est facile, il n'y a rien de bien compliqué.
Okay.
Mon stylo ne marche plus, zut. Merci. Alors, bon, tant pis.
Non, mais on comprend, ça va.
Alors, en second. Pour l'instant, on ne dépasse pas les 10 secondes, c'est pas mal. Alors, on reprend. Alors, c'est toujours un mec. Putain, lui aussi, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Il est un peu bizarre, mais franchement, c'est un bon gars. Hein. C'est bon. C'est quelqu'un qui a les allergies faciles, mais putain, des fois, il est très impressionnant. Hein. C'est
Superman.
Ouais, exactement.
C'est l'allergie au kryptonite.
Voilà. Ça va, Lucas ?
Ça va.
Rappelez qu'une fois, il avait dit, si on fait le thème super-héros, je serais bon.
T'inquiète.
C'est ça. Pour l'instant, allez, le prochain. Bon, c'est toujours un mec, hein, parce que, faut pas déconner. Alors, c'est un gars, bon, il est, c'est un gars qui est particulier aussi. Il a une coupe de cheveux très approximative, hein. Il est pas très grand, étonnamment, mais waouh, il est balèze. Hein. Ah, il est balèze. Hein. Il vit. Ah, tu sais, ce mec, c'est un gars, ouais, il s'est. T'oses pas lui dire qu'il sent pas bon parce que sinon il t'éclate la gueule, mais Hulk. Franchement, non, c'est pas Hulk. Et voilà, c'est. Par contre, il est entouré d'une team. Oh là là,
ah, c'est. Wolverine.
Ouais. Exact.
Ouais, le entouré d'une team, là, ça m'a mis.
Et la coupe de cheveux.
Exact. Bon, vous avez remarqué que c'est full impro, hein. Il n'y a pas de texte.
Ouais, je vois ça.
Au cas où. Allez. Là, on passe au plus compliqué déjà.
Ok.
Alors ça, c'est un gars, lui non plus, il rigole pas. Hein. C'est un gars, ouais, il rigole pas, un peu porté sur les flingues, c'est sûr, mais il rigole pas. Hein. C'est le gars, ouais, il te met une croix dessus, c'est une justice très expéditive. Hein,
Hellboy.
Non, pas du tout.
Okay.
C'est un gars, ouais, il vit un peu dans le futur, tout ça.
Just Red.
Ouais, c'est ça. On s'approche des 30 secondes, hein, ça commence à galérer.
Ouais, non mais oui, t'as dit justice un peu expéditive dans le futur et tout, ça m'a...
Ça aide.
Faut toujours que je le vois, ce film.
Les deux sont cool. Ouais. Alors là, waouh, lui il vient d'un autre monde, hein. C'est vraiment, c'est presque un diable, quasiment.
Hellboy.
Non. Il est très moche, hein. Il est, ouh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Mais ouais, son patron, c'est un clown qui aime bien bouffer.
Ah.
Et ses meilleurs amis, c'est des clodos. Ouais, bon, c'est dit comme ça, c'est pas glorieux, mais je te jure, ce mec, il est cool. Et c'est un gars, il est ultra violent. Ah, je me souviens quand il a éviscéré.
J'ai droit à une question.
Un pédophile. Ouais, vas-y.
Il y a eu un film sur lui?
Ah bah bien sûr, il y a toujours eu des films. Mais quand il a éviscéré le pédophile dans le camion de glace, ça, c'était excellent.
Ah mais c'est Spawn.
Ça. Oui. Bien joué.
Beau film. Regardez-le. Non, je déconne, c'est pareil.
Il se rattrape.
Un remake bientôt avec Jimmy Fox.
Ouais, j'ai vu.
Pour l'instant, il y a 3 partout, hein.
Ouais.
Ouais, mais là, t'en as eu film que j'ai pas vu.
Il y a 3 partout.
J'ai une excuse.
Oui, non, mais ça, c'est la culture, mec. Bref. Alors là, figurez-vous, c'est une femme, hein. C'est pour changer. Ah, celle-là, c'est elle est sympa, celle-là. Hein. Puis elle est badass, hein. Ah, franchement, c'est fou, hein. Et vous savez qu'elle a déjà battu Thanos? Bah, putain, c'est quelque chose.
La veuve noire?
Non.
Square Girl.
Oui!
Yes! j'ai lu le comics en bus.
Oui, putain, j'ai pas donné beaucoup d'indices.
Non, je crois que même en super-héroïne, en fait, j'ai vu une vidéo de Link the Sun il y a pas longtemps pour l'anecdote.
Oui, bien sûr.
Où vraiment, c'est les pires méchants ou les pires persos de Spider-Man, je crois, je sais plus, bref. Et en fait, je sais que Wonder Woman ou même Elektra ou la Veuve Noire a jamais battu Thanos, je crois, proprement dit. Tandis que elle, oui.
Mais Squirrel Girl est un personnage très cool, hein,
mais dans les comics, en fait, elle est hyper puissante alors que c'est juste une meuf avec des écureuils de base, donc ça m'a.
C'est puissant, les écureuils.
Ouais. Ouais, vraiment.
Allez, alors là c'est un mec quoi, il aime pas trop qu'on voit sa gueule, un chouïa fasciste sur les bords, lui aussi il aime bien la justice expéditive, puis il aime bien les pins, et il enquête sur la mort de ses copains fascistes aussi.
Comédien.
Non.
Ah non, bah alors. Mais... c'est Rorschach.
Ouais.
Oh. Ouais, là tu m'as mis sur la piste, j'avoue.
Ça va, en fait, je me disais, ça allait être un peu compliqué, mais ça va, vous
démontrez. Ah, c'est le
Pins. Non, mais là, c'est.
Le Pins, c'était Watchmen, et j'étais. Ah, putain, j'ai plus leur nom.
C'est Melvin qui me donne la réponse, là, j'avoue.
Putain, c'est bon, il remonte, hein. Il est bon.
Il y a combien là?
Mais il a gagné,
je sais pas.
Ah, il en reste un.
Alors, il y a combien?
T'as gagné.
Il en reste un, t'inquiète. Alors là, c'est un gars. Ouais. Il n'a pas un boulot facile, mais bon, dans son cœur, c'est un gars sympa. Hein. Il aime bien les sports de mer, mais il fait son sport de mer, mais pas dans la mer, c'est très particulier. Et c'est un gars, putain, ouais, oh, il est brillant, ce mec. Franchement, vous devriez le voir.
Le surfeur d'argent.
Ouais, bien joué.
J'étais sur Frozone de base, j'étais là, non, mais ça correspond pas.
J'avais peur que brillant, ça soit un trop gros indice. Je voulais dire plein de conneries, mais bon. Vous avez deviné. Bon, bah, malgré le fait que tu aies vraiment bien commencé, bah, c'est Lucas qui a gagné.
Mais il y avait défilé un point.
À 5
plus.
À 4.
Ouais, j'avoue. Ouais.
5 à 4.
Mais il y a des trucs durs, genre Square Girl, là, si j'ai pas lu le comics, je suis dans le vent, quoi.
Non, mais j'allais vous aider à la fin. J'attendais les dernières secondes pour vous mettre des indices vraiment.
Ouais, ouais, ouais.
vraiment fort, mais vous arrivez
jamais... Il y avait des trucs intéressants, ouais.
Bon, vous avez bien aimé le jeu ?
Ouais,
très bien.
Ça change.
C'est sympa.
Ouais.
Full impro, mais c'était sympa. Bon, eh ben, on va dépasser sur l'heure habituelle, juste avant de conclure, parce que c'est évidemment l'émission des vacances. On va juste, sans entrer dans le détail, c'est quoi les films que vous avez vus pendant les vacances, juste, et que vous reconseillez ? Juste les titres, sans trop vous étaler dessus. Vas-y, Melvin.
Alors moi, je conseille Peur Primale, avec Richard Gere et Edward Norton, que j'avais jamais vu, que j'ai découvert. Bon, je connaissais la fin, c'est dommage, mais j'étais bluffé par le film. Il m'a pris dedans, et la prestation d'Edward Norton est dingue. Et bah, c'est un film de justice, du coup, de tribunal, et ça se tient vraiment bien. C'est super intéressant, et c'est dommage qu'il soit aussi peu connu sur des années 90. Et je peux que le conseiller, au moins pour la prestation d'Edward Norton.
Il y a plein de pépites hein, sur cette période.
Voilà.
Et toi, Lucas?
Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Alors moi je vais en donner deux, je pense. Alors j'ai Double Face avec Nicolas Cage et John Travolta. C'est Double Face, ça le...
Non, c'est Volte-Face.
Volte-Face. Oh, je me trompe même sur le titre. C'est Volte-Face. Donc ça faisait partie des classiques que j'avais vraiment à rattraper. Et je l'ai rattrapé il y a à peu près 2 mois, quelque chose comme ça. Et
il est excellent.
Ouais, c'est trop bien. Regardez ça. Et la semaine dernière, j'ai découvert Sin City aussi, donc qui est un peu le premier film du genre que je découvre. Et c'est vraiment bien aussi. C'est spécial, mais bon, si on regarde pas, on peut pas savoir si ça va nous plaire. Donc,
on en a parlé l'année dernière. Hein.
Donc n'hésitez pas. Et ça a à peu près tout. Après, je vais pas parler des films que j'ai pas aimé parce que sinon, bon, voilà, on va dériver un peu du concept. Mais bon, si jamais les deux films, n'hésitez pas.
Alors moi aussi, je vais vous conseiller 2 films. Alors le premier, ça va être Le Pacte des Loups de Christophe Gans, qui est vraiment, c'est ceux qui disent ouais, le cinéma de français, ça rapporte jamais rien et c'est toujours nul. Vous lui montrez ce film, normalement, il va la fermer parce que c'est marre d'entendre ça. C'est absolu, c'est très beau. L'histoire, elle est trop bien. Il y a des références à des jeux vidéo. Si vous aimez Dark Souls et plus précisément Bloodborne, vous allez vous y retrouver. C'est absolument fantastique et ça reprend les contes français. Bref, c'est trop bien. Vous voyez comme je vends mal les concepts. Et enfin, le dernier, c'est les 2 Hypertensions avec Jason Statham. Et pour résumer, c'est GTA le film. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vous les conseille à fond, même s'il y a des blagues un peu limites, franchement, c'est sympa, avec une bonne bière et une main dans le slip. Allez, c'est parti.
Sans prise de tête.
Exactement.
Je peux que conseiller Hypertension aussi.
Voilà. Bon, c'était. On fera peut-être une émission plus particulière pour parler de nos découvertes de vacances. On verra ce qu'en disent nos téléspectateurs. Bon, bah c'était sympa.
Ouais, ça fait plaisir de reprendre. Ouais.
Voilà. Bon, on espère que cette émission de rentrée vous a plu. Nous sommes heureux de vous avoir parlé des super-héros, de vous avoir partagé nos contradictions et nos passions avec ce médium. Et puis, on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, salut à tous.
Salut tout le monde.
Je rappelle juste vite fait qu'on a un Instagram @themeciné tout en minuscule sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre.
C'est ça, fais la pub, abonnez-vous.
Allez, salut.